Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canut info.
Ah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis ta crise 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolémie et ton bullshit. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mon tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Canu Info du Bonsoir, c'est l'heure du Canu Info du vendredi, il est 19h03 et vous allez avoir droit aujourd'hui à une longue liste d'informations. On va commencer par une insert téléphonique en direct de Grande Zéro où se tient ce soir une soirée en soutien aux géographes libertaires. De nombreux groupes sont prévus à l'affiche, la soirée commence vers 21h.
Ensuite, on va avoir une grosse partie thème migration. Du coup, on va commencer par écouter un reportage sur les routes migratoires.
De la Guinée à la France, en passant par la Libye et l'Italie.
On fera ensuite un entretien en direct où on parlera de ce que c'est que habiter à l'amphibie.
On est en effet avec Ousmane, Elliot, Aguibou et Ali qui sont autour de nous dans les studios de Radio Canu.
Ensuite, on vous expliquera un peu les grandes lignes du projet de la loi immigration qui est passé au Conseil des ministres il y a 2 jours.
On parlera ensuite de la France qui expulse vers la mort des personnes porteuses du VIH.
Et puis, on changera ensuite de rubrique et vous n'avez sans doute pas manqué l'information. Elle faisait la une des journaux hier dans la journée et en soirée. L'expulsion du bois Le Jus à Bure. Bure, c'est le site qui a été choisi pour enfouir les déchets de longue durée, les déchets radioactifs de longue durée, évacuation du bois Le Jus. On reviendra donc sur cette nouvelle.
Pour ensuite vous parler du carnaval de l'inutile Béton va Béton qui se passe demain à Saint-Étienne à 14h. Et voilà, on vous détaillera un peu plus de pourquoi et comment.
On passera ensuite à la rubrique internationale pour vous passer les traditionnels brefs du Kurdistan avec un petit point contexte actuel sur ce qui se passe à Afrine en ce moment.
Et on terminera par l'habituel agenda. On va donc commencer d'ailleurs par cet agenda puisqu'on vous parle tout de suite de la soirée à Grande Zéro à Vaux-en-Velin ce soir pour les géographes libertaires.
Musique.
Allô, vous nous entendez ?
Oui.
Ah, incroyable, ça marche ce soir. Et bah du coup, on est en direct avec vous qui êtes au Ground Zero pour la soirée des géographes libertaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce collectif ?
Oui, tout à fait. Alors, Géographes libertaires, donc c'est un réseau, le réseau Géographes libertaires. Notre idée, c'est travailler par l'approche du territoire, de mêler un peu toutes les disciplines, pas que la géographie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philo, etc., les sciences sociales en gros. Donc on veut plutôt dans la géographie indisciplinée. Et pourquoi tout ça ? Bah, pour s'attacher justement à étudier, aider tout ce qui est lutte sociale. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, à Silence, on peut aussi faire référence à l'actualité, par exemple à Bure, ou encore à la 45. Et puis notre idée, c'est d'apporter une réflexion, une pratique, c'est ouvert à tous et à toutes. Et on veut une approche horizontale, ça peut passer aussi bien par l'université, l'école ou le milieu militant. Donc voilà, et pour la soirée de soutien, je transmets, on vous explique.
Ok, merci.
Du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de soutien ce soir ? Alors ce qui se passe, c'est qu'on a plus ou moins trois types d'événements jusqu'ici.
Ouais.
Les premiers événements, c'est des séminaires, des rencontres et des interventions, mais qui jusque-là sont essentiellement dans le cadre de l'université, alors qu'on aimerait, même si on pense que c'est important aussi de faire bouger les idées à la fac, on aimerait aussi faire plus de choses en dehors. Et d'où l'idée d'avoir besoin d'un peu de soutien pour faire venir des gens, des collectifs, des artistes, des chercheurs, et développer de plus en plus de pratiques non académiques. Donc ça peut être autant faire venir des personnes pour intervenir et discuter, débattre sur plusieurs sujets, mais ça peut aussi être développer des liens avec les luttes territoriales, s'impliquer davantage dans les luttes de territoire et financer un peu tout ça. Du coup, voilà pour la caisse de soutien et on va présenter un peu la soirée maintenant, ce qui se passe ce soir.
Ok, nickel.
Alors les informations pour la soirée, on vous attend à partir de 20h à GZ hors les murs. Pour ceux qui auraient besoin d'indications, vous pouvez écrire à l'adresse mail je suis anxieux tout attaché @gmail.com. Alors ce soir, pour ceux qui viendront, il y aura du hip-hop, du rock garage, des chansons et synthés, de l'électropop et mix de cassettes pour terminer, avec les groupes Vente de Biche, De Lyriciste et Cas d'école, The Brand New Man, Baladur, Tourniquet Tape. Voilà, vous êtes les bienvenus à partir de 20h. Il y aura du punch, du vin chaud, plein de choses à boire et un repas chaud. Et juste pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le réseau des géographes libertaires, on a un site web, c'est rgl.hypothèse.org.
Eh bien, nickel, merci beaucoup. Et puis, on se revoit là-bas, du coup. Bonne soirée.
Ouais, merci, bonne soirée.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Mon premier départ, je l'ai fait seul de la Guinée au Mali Bamako. Après le Mali Bamako, je suis parti à Burkina Faso. De Burkina Faso, là je suis parti au Niger. Du Niger maintenant, c'est là le désert commence.
Au début, on était au Niger, on a fait à peu près 2 semaines à 3 semaines. Là-bas, bon, on nous a mis dans un pick-up avec plusieurs autres Africains aussi, des Nigériens, des Ghanéens.
On a fait 1 semaine dans le désert, après nous sommes rentrés à Tripoli, la capitale de la Libye.
Ils nous ont fait descendre dans un endroit, il y avait une grande porte, ils nous ont fait entrer, ils nous ont servi à manger. Il y avait une première muraille et puis il y avait une deuxième muraille. Ils nous ont fait entrer dans la deuxième muraille, ils nous ont dit, bon écoutez, c'est très simple, ici c'est une prison. Celui qui vous a amené ici vous a vendu au fait.
Méga combi.
Il te garde là-bas quoi. Tu vois, il nous donnait à manger une fois par jour. Juste pour ne pas mourir quoi.
Rencontre.
En Libye, au 3e mois, les policiers libyens m'ont pris. Moi j'étais en prison, là où j'ai fait 7 mois de prison. On m'a attaché, humilié, insulté. J'étais là en garde à vue. Mais après les 2 mois, on m'a fait rentrer dans les chambres. Et c'est là où j'ai trouvé des djihadistes, des tueurs. Ils savent qu'ils ne seront pas libérés, donc ils vont te menacer. De sorte que tu t'en sors pas aussi. Et c'est dans ça qu'on a coupé mon oreille, en mangeant mon oreille. Et après, ils ont voulu arracher mon œil. Mais là, malheureusement, je me suis défendu. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été sauvé. Mais au moins, mon œil a eu une cicatrice que je ne pourrai jamais oublier. Dès ma libération, on nous a envoyés au bord de la mer, ça s'appelle Zabrata. Moi, c'est par là-bas, on m'a poussé. Et là, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai fait 4 mois encore avant de traverser. J'ai payé 4 fois. Ils ont mangé notre argent sans nous faire traverser. C'est à la 4e fois que Dieu m'a dit oui. Quand nous avons fait le départ, il y avait plein de personnes.
On était 135 dans un Zodiac. C'est 17 personnes qui sont sorties vivantes.
On était plus de 100 et quelques. Mais je suis le seul qui est tombé dans l'eau. Moi, je suis tombé dans la mer direct. Après, je ne sais pas comment ils m'ont sauvé. Hein.
Le gros bateau, il s'est arrêté. Il a juste mis ses phares, puisque c'était en pleine nuit. Il s'est juste mis à distance. Ils ont allumé une grosse lampe dans l'eau qui nous éclairait au fait qu'ils voyaient. Tu vois les gens, tu démerdes comme tu peux. La vague te jette à gauche, te jette à droite. Tu vois les gens qui sont déjà morts, qui tournent autour de toi, tout et tout.
Heureusement, on s'est rencontré avec la Croix-Rouge et ils nous ont sauvés. On est monté, on est venu en Italie. C'est Lampedusa.
Pour moi, c'était un nouveau monde, au fait. C'est vrai, l'Europe, la France, c'était un mythe, au fait. De là-bas, après, ils m'ont envoyé dans une ville à Lugo. On était dans un campo du genre, c'est comme une prison. Vous sortez pas beaucoup. Moi, j'avais jamais imaginé si je viens, ça allait se limiter à ça, quoi. Souvent, on nous envoyait travailler dans les plantations, dans les champs de raisins, en fait, couper le raisin. Et puis, on nous disait, bon, c'est du volontariat. Si vous travaillez, c'est ce qui va vous aider à avoir les papiers. Tu travailles de 8 heures jusqu'à 18 heures, 19 heures. Là-bas, par mois, je pense, on nous donnait 75 euros.
Ils m'ont amené à Gatinara, dans un village vers les Alpes, tu vois. Tu vois, dans le village, on ne nous apprenait pas la langue italienne. Et tu sors à 20 heures, tu te rencontres pas avec assez de monde. Tu peux pas t'intégrer, quoi. Après, je me suis dit, pourquoi pas aller en France, alors. Je connais la langue un peu.
Je suis parti à la frontière. J'ai essayé plusieurs fois de rentrer en France par Briançon. À chaque fois, quand on va, on nous ramène. Souvent aussi, les policiers, ils nous frappent. Un soir, où il faisait froid dans les montagnes, quand la police de la France m'a pris, ils m'ont fait rentrer dans une salle, ils ont allumé la climatisation jusqu'au matin. Ils m'ont arraché mon blouson avec ma capuche, tout et tout. Matin, quand ils m'ont remis à la Croix-Rouge italienne, j'arrivais même pas à marcher. Puis c'est tout, mes pieds, ça, c'était un peu enflé, c'était gelé. Je sentais plus mes pieds, quoi. Avec d'autres amis, on a repris la route, on est revenu.
C'était le 13 août, je pense, je me rappelle de la date, parce que c'est une cicatrice, tu vois. On a commencé de marcher à 22h. De 22h à 5h, on était proche de Briançon, tu vois. On était proche de là-bas, on s'est rencontrés avec les flics. Et quand j'ai vu la phare, je me suis barré et du coup ils sont descendus, c'était les flics, ils ont attrapé certaines. J'étais avec un mec ivoirien, on s'est caché quelque part là-bas. Et heureusement, on s'est rencontrés avec une dame française. Elle nous a appris, elle nous a amenés chez elle, elle nous a donné du café. Et on a resté chez la dame. On a pris, on s'est lavé bien, on a dormi. On s'est réveillé à 9h. Elle nous a accompagnés dans sa voiture. On est venu à l'assaut.
Il y a une association aussi à Briançon, les Français qui s'occupent des immigrants. Donc c'est comme ça, je suis resté là-bas pour 2 semaines. Et après, nous avons eu la chance parce que c'est une dame qui nous a apporté à Grenoble, là où nous sommes restés pour 2 jours. Et après, nous avons continué directement à Lyon.
Tu tu promènes avec ton sac, ta brosse à dents, ton drap, tout, au fait, le nécessaire, quoi. Les gens, ils te voient dans la rue, tu es comme un fou, quoi. Tu deviens comme un zombie.
La première des choses, c'est d'avoir sa patience, être patient et de gérer sa vie de telle sorte, d'oublier le passé, se rattraper toujours au présent.
J'ai ma copine d'abord ici, tu vois. J'ai mes copains aussi, tu vois. Là, je commence à construire plein de trucs avec plein de copains, plein d'amis, tu vois, avec plein de moments cool, tu vois. J'arrive à m'intégrer, quoi, tu vois. Si j'acceptais que je vive ici, moi, c'est cette vie que je veux, quoi. Vivre tranquille où j'ai pas de peur. C'est fini, c'est tout ce que je veux, moi.
Moi, quand même, moi, je vais pas mentir. La France que j'avais rêvée, qu'on m'avait enseigné l'histoire d'où et tout, c'est pas ce que j'ai vu en réalité, au fait. Mais bon, je suis là.
Et on est là ce soir autour des micros à Radio Canu avec Ousmane, Elliot, Aguibou et Ali. Trois d'entre vous habitaient l'amphi Z qui a ouvert à QC, à Villeurbanne, à la fin du mois de décembre. Et on va revenir un petit peu, on a pu entendre sur ce documentaire vos parcours de la Guinée-Conakry jusqu'à Lyon, en passant donc par la Libye, la Méditerranée, l'Italie. Et puis le Briançon, également la frontière franco-italienne. Et on n'a pas trop entendu ce qui est arrivé une fois que vous êtes arrivé à Lyon, justement. Alors peut-être pour commencer, Aguibou et Ali, quand vous arrivez à Lyon, ça se passe comment pour vous? Vas-y, Aguibou.
Respect for all people. Je parle en anglais. C'est le seul mot que je connais en anglais. Respect for all people. Je le respecte pour tout le monde. Du coup, je parle devant tout le monde aujourd'hui. J'ai la chance de parler devant tout le monde. Quand c'est arrivé à Lyon, c'était à la part du... C'est ma première fois de parler à la radio.
Alors vas-y, prends ton temps.
Voilà. C'est ma première fois. Je suis un peu timide. Je suis pas trop habitué à parler devant tout le monde. Je ne sais pas parler, que tout le monde m'écoute, vous voyez. Du coup, je ne parle pas bien la langue française.
Si t'inquiète, on te comprend.
Ok.
Vas-y, Aguibou.
Je suis venu à la Pardier. Donc, du coup, j'ai passé... quand je suis arrivé à Lyon, c'était là-bas, j'ai trouvé des amis. On était tous ensemble là-bas. Du coup, tout le temps, il y avait la police qui passait, matin, midi, soir et tout. Je me réveillais à 5h du matin. C'était avec mes amis, vous voyez. Donc, ils venaient me réveiller. C'est pas... Oh là là.
Donc, ils venaient à chaque fois qu'on était... Parce qu'on dormait dans la rue à la part Dieu. Donc, du coup, la police, ils venaient. Ils nous disaient de quitter, que c'est pas un lieu où dormir, tu vois. Genre, on les disait, on n'a pas où dormir. Donc, c'est pourquoi on est là. Chaque fois, ils venaient, mais ils nous frappaient pas quand même. Mais ils venaient, tu vois, brutalement. Ils disent quitter, quitter, tu vois. Et parfois, ils prennent même tes trucs, tu vois. Ton sac, ils ouvrent, tu vois.
Tes affaires,
quoi. Voilà, tes affaires, quoi. Tu vois, genre, c'est comme ça, on a resté. Donc, on a resté des mois. Moi, par exemple, j'ai fait 3 mois. Tu vois, j'étais là-bas, je dormais avec plein de copains, tu vois, sur la rue comme ça. Et du coup, j'avais passé d'abord pour ma demande d'asile. Et ils m'ont dit de revenir pour un mois après à la préfecture pour commencer la demande. Je suis venu là-bas, ils m'ont donné une procédure de blême. Et donc, à la FROM, ils m'ont dit que là-bas, il y a ma domiciliation, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de logement pour nous, tu vois. Et du coup, on a concentré parce qu'on voulait rester, tu vois. On s'est concentré là-bas, on a resté. Et c'est dans ça que il y a eu des soutiens, des jeunes étudiants qui sont venus, ils nous ont pris, ils nous ont amenés à Lyon 2. Il y a une fac à apprendre.
C'était à quel moment ça, du coup? Parce que tu dis donc, on entendra Ali, tu dis que tu es resté toi 3 mois, ça a duré combien de temps le moment où vous êtes resté pour... Toi, tu es arrivé à un moment où ça avait déjà commencé l'occupation à Pardieu ou...
Ouais, ben moi je suis venu, j'avais trouvé certaines qui dormaient là-bas même, tu vois. Et du coup, je suis venu, j'avais
Je les ai vus, ils m'ont dit que c'est ici, ils dorment. Bon, j'avais pas le choix, tu vois. J'ai dormi là-bas le lendemain, il y a quelqu'un qui m'a accompagné à la forum réfugié, j'ai pris le rendez-vous pour ma demande d'asile.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on a traîné là-bas ensemble jusqu'à on a eu l'occasion du bâtiment qui se trouve à Cusset.
D'accord. Alors avant de parler du bâtiment à Cusset, ça se passe comment là? Peut-être que quelqu'un d'autre veut répondre à ça, ou encore toi Ali. Ça se passe comment la rencontre avec les étudiantes et les étudiants?
Au fait, ils sont venus, ils nous ont trouvés là-bas, on savait pas que c'était des étudiants. Ils sont venus, ils nous ont pris, ils nous ont dit parce que c'était le début de l'hiver, tu vois. On avait du mal à dormir là-bas, tu vois. Et du coup, ils sont venus, ils nous ont trouvés, ils ont trouvé plein de monde, ils nous ont pris, ils nous ont amenés dans leur fac à Lyon 2. Donc on est allé là-bas, on a resté avec eux. Ils passaient même des nuits avec nous là-bas, tu vois, pour juste nous soulager, tu vois. Du coup, on a resté avec eux là-bas, on a fait des manifestations pour juste réclamer, tu vois, un logement, tu vois, parce qu'on ne pouvait pas rester dans la rue.
Et vous étiez combien à ce moment-là, à peu près, dans l'amphi, tu te rappelles ou...
Dans l'amphi, on était dans les soixantaines, plus, voire même plus, parce qu'il y avait certaines, ils ne savaient pas que nous étions à l'amphi Z2. Et l'amphi C, du moins. Parce que c'était l'amphicé. Ça, c'était à l'université.
À Bron, du coup.
Oui.
Est-ce que d'autres ont envie d'ajouter quelque chose sur ce moment-là, le début de l'hiver? Donc, ça devait être en novembre-décembre 2017.
Au début d'hiver, on était à la part d'eux. Du coup, il y a un collectif de gens qui sont venus au secours. Qui nous ont ramenés à la fac, à Lyon 2. Donc, tous les immigrés. Donc, qui ont décidé de faire une manifestation avec nous pour qu'on arrive à trouver un toit. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser. L'hiver, vous voyez, l'hiver, ça fait. On ne peut pas vivre comme ça sans un toit à l'hiver. Vous voyez, donc, du coup, ils sont venus au secours, qui nous ont sauvé la vie, qui nous ont pris, qui nous ont ramenés à la fac. On était avec eux, on s'est partagé avec eux dans une même assiette et tout, tu vois. Donc ils ont pris comme des frères et sœurs et tout, quand on était tous ensemble. Donc on est restés ensemble. Au bout d'un moment, on a été expulsé à la fac.
Voilà, il y a eu ensuite expulsion à la fac, c'était ça fin décembre. Et ça se passe comment alors après pour vous?
Après, on a trouvé un toit, donc j'ai ouvert un squat à l'amphi, c'était l'amphi Z.
Est-ce que quelqu'un ici peut nous expliquer, avant d'expliquer comment vous vivez là-bas, ce que c'est que l'amphi Z, parce que c'est pas du tout un amphi d'université, ça s'appelle amphi Z, je pense.
L'amphi Z.
Parce que ça a suivi l'occupation de la fac, mais c'est quoi l'amphi Z en fait? Enfin, ça ressemble à quoi?
En fait, l'amphi Z, c'est un ancien bâtiment des chasseurs-pompiers qui sont en face, tu vois. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas habité. Et donc, vu qu'il n'y avait pas de solution, et la présidente de l'université avait menacé, tu vois, de nous expulser là-bas aussi. Et ils ont gagné ça, tu vois. Ils nous ont ouvert ce squat. Et là, depuis, il fait maintenant... À peu près 2 mois, on vit là-bas. Ça a cuissé.
Ok, ça fait donc 2 mois qu'il y a une centaine, 150 personnes qui vivent dans ce bâtiment.
Oui.
Alors, ce que ça vous a apporté, c'est assez évident, comme le disait Aguibou, c'est voilà, en plein hiver, ça fait un toit et un peu de chauffage. Comment ça fonctionne, en fait, ce lieu entre vous? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus?
En fait, le lieu, bon, c'est un lieu quand même. C'est un lieu, donc c'est mieux que dehors, quoi, tu vois. C'est un lieu, on ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas aidés, quoi, tu vois. Ils nous ont fait leur mieux, tu vois, parce que, genre, c'est pas eux qui devraient faire ce genre de truc, tu vois. C'est à l'État de faire ça, tu vois.
Donc là, quand tu dis eux, tu parles des étudiants et des squatteurs.
Voilà, et tout le monde, tu vois.
Et tous les autres.
Tous les soutiens, c'est pas que des étudiants seulement, parce que c'est, genre, c'est eux qui ont débuté, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas eux seulement qui luttent, quoi. Il y a aussi des volontaires, tu vois, comme ça qui viennent pour nous montrer leur solidarité, tu vois, qui nous épaulent. Tu... En fait, qui sait, c'est... on est là-bas, on est bien quand même, ouais, mais genre, c'est un lieu, tu vois, c'est un lieu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous dire de quitter, donc on ne sait pas, on est là-bas, on n'est pas dans la rue quand même, tu vois. On remercie quand même les personnes qui nous ont aidé à avoir là-bas, avoir un toit comme là-bas, quoi.
C'est mieux que la part Dieu, quoi.
C'est mieux que, tu vois, la rue, quoi, tu vois.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur l'Amphiz ou non? Et alors sinon, peut-être une dernière ou avant-dernière question. Je ne sais pas si vous avez envie de développer là-dessus. Vous en êtes où, vous, par rapport aux procédures, et notamment aux procédures juridiques? Là, il y a un projet de loi qui a été déposé, on en parlera dans quelques minutes. Vous, personnellement, vous en êtes où par rapport à ces procédures juridiques?
La plupart de nous qui vivons à l'Amphiz de qui sait, c'est des gens dublimés, je ne sais pas. Ils ont une procédure double, je ne sais pas. Ils ont, genre, on est là, la plupart, ils sont rentrés vers l'Italie, et certaines aussi vers l'Espagne, tu vois. Tu viens ici, on te dit que tu... Donc, ta procédure, c'est une procédure double.
Ça veut dire, concrètement, Ali, ça veut dire que tu es censé, pour éventuellement recevoir l'asile, retourner en Italie, c'est ça? Le statut de réfugié, pardon.
Là, du coup, nous, il y a pas beaucoup de personnes qui connaissent d'abord c'est quoi le double M, parce que il y a des personnes ici entre nous qui comprennent pas bien la langue. Il y a certaines personnes, c'est des anglophones, tu vois. Et il y a aussi certaines qui comprennent. Comme par exemple moi, je comprends. Ils m'ont expliqué, je leur ai demandé c'est quoi le double M. Ils m'ont dit donc le fait que tu es passé par l'Italie, tu dois rester ici, tu vois. Je sais pas, 4 à 6 mois, on va appeler l'Italie pour, s'ils te disent de te retourner là-bas, je sais pas, tu vois, tu retournes. Tu vois, et là, on est là, on attend, on ne sait pas si réellement on va vivre ici et si ils vont nous dire de quitter, quoi.
Ok. Eliott, on t'a pas entendu, tu veux ajouter des choses sur ce sujet?
Je peux dire que tout ce qui se passe aujourd'hui... va être forcément amélioré dans les jours qui vont venir, parce que au fur et à mesure que le temps passe, on trouvera forcément une solution. Donc maintenant reste à ce que on voie comment les choses se passent, et est-ce que vraiment c'est de la même manière là qu'on doit résoudre le problème, ou plutôt vraiment d'une autre manière, amener à bien les choses. Parce que forcément, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ici en France, sont venus pour y rester. Pas forcément pour venir et repartir. Pourquoi venir et repartir? Donc voilà, on est tous là pour rester. Il faudrait qu'on trouve des solutions pour y rester. Et puis voilà. Et puis on va tous rester. On est forcément fiers d'être dans un pays glorifié de par le monde. La France est quand même un pays élite de par le monde. Et puis vraiment, elle continue de l'être. Et vraiment, c'est elle qui vraiment tient la tête haute parmi tous ces pays de l'Europe. Et donc, c'est vraiment elle qui a le pouvoir d'achat et la solution à tout. Donc vraiment, la France, c'est là où on va rester et c'est là où on trouvera tous vraiment une solution.
Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que vous pensez, vous, dans votre expérience personnelle, de l'accueil qui est fait ici, de l'accueil qui vous est fait ici?
L'accueil en France, c'est bien. Tout est bien. Seulement que les gens se sentent frustrés. Ceux qui étaient et ceux qui sont venus doivent s'entendre. Donc après, il faudrait que les organisations en place essayent de mettre un syllogisme en place pour la cohésion entre les nouveaux et les anciens. Voilà. Je pense, sinon, la France accueille bien tout le monde. Je pense, hein, parce que je suis venu qu'en France, je ne suis pas allé dans un autre pays, moi. Et je connais que la France et j'ai vu que l'accueil est déjà bien. Mais il faudrait qu'on nous pousse vraiment à donner le meilleur de nous, parce qu'elle en a aussi besoin.
Mais, juste pour rebondir, peut-être je me trompe, hein, mais vous avez vécu quand même pendant des mois, en tout cas pour certains, dehors, alors que vous aviez déposé une demande d'asile. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous avez été bien accueillis?
Jamais.
Moi, non, pas, moi, je suis pas d'accord. Tu vois, on est là, mais on n'est pas venus tous de la même. Comment dirais-je même? Lui, genre, il y a certains, ils sont venus, tu vois. Ils sont venus par une voie légale, tu vois. Nous, on est venus, comme ils le disent, par une voie illégale, tu vois. Mais genre, on ne veut pas rester dans la merde, dans l'insécurité, tu vois. C'est tout ce qui nous a poussé de risquer nos vies, de venir se réfugier, tu vois. Et là, moi, je ne dirais pas que la France m'a bien accueilli. Mais je dirais que, ouais, il y a certaines, quand même, il y a des Français qui sont prêts à accueillir, mais qui n'ont pas le pouvoir, quoi, tu vois.
Bah, moi, je vais défendre un peu. Moi, je dirais, bien sûr, que j'ai bien été accueilli en France. Car moi, je ne suis pas menteur. J'ai bien été accueilli en France. Depuis que je suis venu, j'ai jamais passé ma vie ailleurs. Je n'ai jamais dormi dans la rue. Donc, du coup, la France m'a bien accueilli. J'aime bien la France. J'aime trop la France. Donc, c'est pas pareil que l'Afrique. De me vécu en Afrique et tout. Donc, je parle de mon histoire, de ce que j'ai vécu et tout. Donc, depuis que je suis venu en France ici, ça s'est toujours bien passé. Je sais pas après ce qui va se passer. Hein, du coup, juste de ce qui s'est passé. Bon, je parle du présent. Depuis que je suis venu de me vécu en Afrique, et quand je suis arrivé en France, la façon dont je t'ai accueilli, c'est tout. Bon, donc, depuis que je suis arrivé en France, je suis bien accueilli. Ça, je le mens pas quand même.
Ousmane, t'en penses quoi, toi? On t'a pas entendu.
Moi, la France, c'est ce faux rêve, ce faux mythe qu'on nous a vendu, au fait, depuis mon pays, depuis le bas âge. Chez moi, dans mon pays, on parle la langue française. Ma grand-mère est prof des Français. Voilà. Donc, on ne va pas se voiler la face. Moi, la France, c'est pas ce rêve. J'avais rêvé, dormi dehors, à la belle étoile, le foie, tout et tout. T'as même pas toi, t'as même pas quoi manger. On te dit, c'est le pays des libertés, des droits de l'homme. Tu dors à la part du même, à la rue, à plein 5h, 6h, un policier, il vient, il te réveille, il te dit, dégage, bouge-toi d'ici, faudrait pas que tu dors ici. Pour moi, c'est pas quand même, j'ai croisé des bonnes personnes. Comme, dans toute chose, il y a le côté positif comme le côté négatif. Mais quand même, c'est pas ce que j'avais rêvé, quoi. J'avais rêvé, je m'attendais à mieux que ça, quoi. Mais pas le rêve espéré, la France, le rêve qu'on nous a parlé de ça, l'Occident, tout et tout. La France, pour moi, c'est pas le rêve que j'avais souhaité, quoi. Même mon plus pire ennemi, je le souhaite pas, les filles, c'est que moi, j'ai vécu, quoi. Dormir dehors, passer pour un fou devant les gens. Voilà.
Ok. Et alors, aujourd'hui, peut-être que c'est pas la même chose pour vous tous, ici, pour terminer cet entretien, et après, vous pourrez dire d'autres choses que vous avez envie de dire. Moi, j'ai une dernière question. Vous avez besoin de quoi? C'est un peu, peut-être, bébête comme question. Mais vous auriez besoin de quoi aujourd'hui?
Là, je parle, mais...
Vas-y.
Là, moi, personnellement, et je sais que ouais, la plupart aussi, c'est de ça, ils en ont besoin. Moi, personnellement, je suis accusé, je suis un demandeur d'asile, comme les autres, tu vois. Il y a pas mal de personnes entre nous, tu vois, qui ont laissé abandonner leurs études avant de venir, tu vois, qui ont envie de poursuivre, tu vois, de s'intégrer en France ici, de apprendre, soit de, tu vois, et tu poursuis tes études, soit tu apprends un métier, tu vois, qui va te permettre de travailler, de contribuer aussi, tu vois, parce que genre tu peux pas rester, tu vois, sans faire quelque chose, quoi. Donc moi, j'aimerais quand même que la France, tu vois, nous laisse vivre ici, parce que c'est ici qu'on se sent mieux, tu vois. C'est ici on n'a pas du mal à se comprendre avec les personnes qui... On parle la langue, quoi. C'est la langue qu'on a appris depuis le bas âge. On est là, on veut être là, tu vois. Vivre ici, s'intégrer, rester ici, travailler, contribuer aussi, tu vois.
Ousmane, t'as un truc à ajouter sur les choses que vous avez besoin?
Bon, moi, je suis pris en charge par la maison de la métropole, la MIOMI.
Parce que tu es mineur?
Ouais, je suis logé et tout. Mais en gros, je ne suis pas encore scolarisé. Ils m'ont demandé de trouver un patron Donc du coup, j'aimerais faire la restauration. Si au cas où j'en, par cette honte, j'arrive à trouver, ce serait bien. Puis vu que j'ai frappé à toutes les portes, j'ai pas, je connais personne aussi. J'ai, les étudiants, vu que les gens avec qui j'ai vivé à la part du, de l'amphiz, ils m'ont fait faire des lettres de motivation, des CV, j'ai partagé, mais bon, jusqu'à présent, j'ai pas encore de retour.
Alors justement, tu m'as laissé une adresse, je la donne, si jamais il y a des personnes qui entendent ton appel. Ouais. C'est ousmi2018@gmail.com, je répète, ousmi, alors ousmi2018@gmail.com. Et les derniers, on est un peu pressé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, peut-être vous deux, Elliot?
La France est le meilleur pays du monde entier. Elle est connue depuis des années. Je suis africain et voilà. Et puis même les Américains peuvent le témoigner. Tout le monde peut le témoigner. Tout le monde rêve de la France, au fait. Et si on y est, on va rester, on va faire des belles choses. Voilà, merci.
Dites-vous, pour terminer.
Ouais, moi, je suis électricien automobile. Je déclare déjà un peu d'expérience en électricité. Je connais faire l'installation générale d'un automobile. Du coup, s'il faut, je déclare un peu, si c'est possible. Je ne sais pas
okay.
Si vous avez le temps.
Eh bien, écoute, on espère qu'on a entendu ton appel. Je répète une dernière fois l'adresse ousmi2018@gmail.com, ousmi, ousmi2018@gmail.com. Merci à vous d'être venu ce soir au Canu Info. On est un peu en retard et on va enchaîner toujours sur la même thématique, puisque aujourd'hui, Gégé Collomb, ancien maire de Lyon, nouveau ministre de l'Intérieur, enfin depuis quelques mois, a présenté son projet de loi, pardon, asile et immigration. On vous en parle tout de suite.
Ben oui, alors c'était avant-hier que le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres. C'est un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui, dans la tendance des dernières années, renforce les restrictions, l'abus des droits envers les étrangers, qu'ils soient demandeurs et demandeuses d'asile ou pas. C'est un projet de loi qui est tellement dégueulasse que non seulement il divise tous les élus, mais en plus, l'OFPRA a fait grève mercredi dernier, donc le jour où le projet était présenté au Conseil des ministres. C'est deux syndicats de l'OFPRA, Asile et CGT OFPRA, qui du coup ont fait un préavis de grève. C'est la première grève depuis 5 ans. Et la CNDA, elle a fait 9 jours de grève. La CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. C'est là où les demandeurs et demandeuses d'asile peuvent faire un recours en cas de rejet de l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Je ne l'avais pas spécifié. Donc, un projet dégueulasse qu'on va essayer de vous expliquer un petit peu. Du coup, pour commencer, dans le volet asile, du coup, pour les personnes qui demandent la protection internationale en France, eh ben, les mesures, elles vont dans la direction d'une restriction des droits et d'une difficulté accrue d'avoir accès du coup, à ce dispositif. En premier lieu, du coup, les personnes qui demandent l'asile, elles peuvent être mises aujourd'hui en procédure accélérée. Ça veut dire que l'OFPRA et la CNDA, elles doivent examiner les demandes de façon beaucoup plus rapide. Tellement rapide que c'est un peu incertain qu'ils puissent vraiment faire un examen approfondi des situations personnelles. Donc c'est une situation qui concerne déjà le 21% de demandeurs d'asile aujourd'hui. Et l'une des raisons pour être mis en procédure accélérée, c'est si on fait sa demande 120 jours ou plus après son entrée en France. Et du coup, cette période va être réduite à 90 jours, si la loi est acceptée, et 60 jours en Guyane. C'est-à-dire que dès l'arrivée en France, il faut bien comprendre où aller demander pour faire sa demande. Il faut arriver à s'exprimer en français, avoir toutes les informations. Du coup, le but, c'est effectivement de mettre de plus en plus de personnes en procédure accélérée et faire des examens très sommaires de la plupart des demandes d'asile. Les délais de recours sont réduits. En cas de rejet de la demande d'asile en première instance, aujourd'hui encore, On a 30 jours pour faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Dans le projet de loi, il est prévu que ce délai soit de 15 jours. Donc 15 jours pour écrire en français un recours pour expliquer pourquoi, oui, on a le droit à avoir une protection internationale. Et à la Cour nationale du droit d'asile, qui se trouve à Montreuil, actuellement, toutes les personnes peuvent s'y rendre, être entendues. Et bien, le projet de loi, il systématise les audiences par visioconférence. Donc voilà, un système qui ne permet pas du tout de créer une confiance alors que les personnes doivent dévoiler devant des inconnus des histoires qui sont souvent dramatiques. Ensuite, le projet de loi prévoit la fin du maintien du droit au séjour en cas de recours qui était systématique jusque-là. En fait, il est prévu que les personnes originaires des pays dits sûrs qui demandent, qui font un recours, qui demandent un réexamen de leur demande ou qui sont considérés comme menaces à l'ordre public, ils perdent leur droit au séjour pendant le recours, sauf s'ils en font la demande. Donc c'est pas du tout la même chose que maintenant où en fait jusqu'à la fin de la procédure, jusqu'au rejet définitif entre guillemets, et ben on a quand même le droit de rester en France. Ce qui change aussi pour les demandeurs et demandeuses d'asile, c'est les conditions d'accueil. En fait, la loi prévoit que les demandeurs et demandeuses d'asile puissent être dispatchés dans les différentes régions de France, même s'il n'y a pas un hébergement sur place. Donc, on peut, par exemple, vous dire, bah, vous allez en Bretagne, même si vous ne connaissez personne en Bretagne, et qu'on ne vous fournisse pas du tout un hébergement là-bas. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et si vous refusez, vous perdez l'allocation de demandeur d'asile, qui est le très peu d'argent que l'État vous fournit pour survivre, alors que vous n'avez pas d'hébergement. Et voilà. Ensuite, il se passe des choses au niveau de la rétention administrative. Donc, pour les personnes qui ont eu un rejet de leur titre de séjour ou d'asile, en fait, la rétention administrative est autorisée aujourd'hui pour une durée maximale de 45 jours. Et bah, le projet de loi voudrait étendre cette durée à 90, voire 135 jours. Pardon. Donc une durée énorme pendant laquelle les personnes sont privées de leur liberté fondamentale et qui, en plus, s'est prouvé, ça n'a aucun sens. Genre, même pour les politiciens qui souhaiteraient expulser de plus en plus de monde, en fait, c'est prouvé que d'enfermer les gens plus longtemps n'augmente pas le nombre d'expulsions. D'ailleurs, juste pour un petit côté historique, la rétention administrative a été légalisée en 1981 par Mitterrand. Et à l'époque, ça durait 7 jours. Et depuis, on n'a pas arrêté d'augmenter cette durée de rétention. La loi prévoit aussi que, qu'un juge, le juge de liberté de la détention, intervienne beaucoup plus tard en cas de rétention administrative, au bout de 5 jours au lieu de 2 actuellement. Ce qui fait que des personnes peuvent être expulsées alors qu'un juge ne s'est pas du tout exprimé sur leur situation. Et sachant que les juges, ils annulent un grand nombre de mises en rétention qui sont donc illégales. Et que vous dire ? Ah oui, dernière chose avant de vous laisser. Non mais parce que c'est quand même assez incroyable. Du coup, le projet soi-disant dépénalise l'entrée irrégulière, mais en fait, il prévoit qu'il y ait des passages frontaliers très spécifiques et que toute entrée sur le territoire doit se faire par ces passages frontaliers et uniquement aux horaires d'ouverture de ces points de passage. Alors, on ne sait pas s'ils vont être ouverts 10h, 12h, 24h par jour. Bref, on est plutôt sûr qu'il y aura des contrôles, dans tous les cas. Et du coup, si on franchit la frontière en dehors de ces passages, eh ben, on peut écoper jusqu'à un an de prison et 3 750 € d'amende. Donc, bref, il y a encore plein de choses à dire, mais on n'a pas trop le temps. Je vous invite à regarder sur Mediapart ou sur le site de la CIMAD, il y a un document qui explique très bien un peu les nouveautés. De toute manière, on va vous en reparler. Et je laisse la parole à mes camarades.
Alors, on va revenir sur un exemple tragique du coup du tout répressif en matière d'immigration de la part des préfectures. Et c'est l'Observatoire du droit à la santé des étrangers qui a écrit un texte hier pour dénoncer l'expulsion d'une personne qui était porteuse du VIH vers un pays où elle ne pourra pas être soignée. Alors, c'était une personne qui donc vivait déjà depuis 10 ans en France, qui avait déjà bénéficié de titres de séjour pour soins, et elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement où elle avait rencontré donc des grandes difficultés pour faire renouveler son titre de séjour durant son incarcération. Un rendez-vous en préfecture lui avait été donné après sa sortie, du coup en janvier. Sauf que juste avant la levée d'écrou, le préfet donne à cette personne une obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine. Et donc 5 jours plus tard, au moment où cette personne s'attendait à retrouver la liberté et à poursuivre ses démarches administratives, le préfet a pris la décision de l'enfermer au centre de rétention du Ménil-Amelot en vue de son expulsion. Alors, constatant le risque mortel en cas de renvoi, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention saisit rapidement son homologue de l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une demande de maintien sur le territoire pour soins. Le médecin donc confirme la position de l'autre médecin, celui du centre de rétention, et il demande effectivement le maintien en France, sauf que le préfet, il n'en a rien à faire de l'avis des médecins, et il décide quand même de l'expulser. Alors du coup, les associations ont contacté aussi les ministères donc, de la Santé et le ministère de l'Intérieur, mais ils ne sont pas prononcés sur le sujet. Et donc l'Observatoire du droit à la santé des étrangers donc conclut « L'expulsion d'une personne porteuse du VIH vers un pays où elle ne peut se soigner constitue une atteinte gravissime au droit à la vie. Des années de combats associatifs et citoyens avaient permis de mettre fin à ces pratiques dramatiques. Elles ne sauraient renaître aujourd'hui. » Les associations signataires demandent la garantie qu'une protection absolue soit accordée aux personnes gravement malades, ne pouvant se soigner dans leur pays d'origine, et qu'il soit mis fin à toute mesure d'expulsion contre l'avis des autorités médicales françaises.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Hier soir, environ 80 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Lyon. Ce rassemblement venait s'ajouter à la grosse soixantaine d'autres, initiés un peu partout en France et même jusqu'en Allemagne, Autriche et Belgique, pour protester contre l'expulsion du Bois-le-Juc ayant eu lieu à Bure un peu plus tôt dans la journée. À l'aube, 500 gendarmes ont investi le village de Bure dans le nord-est de la France et ont envahi la forêt occupée à grands renforts de drones, d'hélicoptères et de bulldozers.
L'objectif, expulser la quinzaine de personnes vivant dans le bois, détruire toutes les constructions et réprimer un peu plus un mouvement antinucléaire qui a vu en quelques années l'occupation policière du territoire devenir son lot quotidien.
La forêt, propriété de l'Andra, acquise frauduleusement, est occupée depuis 2 ans et demi. Lieu stratégique pour le futur site d'enfouissement de déchets radioactifs, autrement connu sous le nom de projet CIGEO, le Bois-le-Juc est censé accueillir les puits de ventilation permettant le renouvellement de l'air toxique stagnant dans les galeries. Son occupation a permis de ralentir considérablement l'avancée des travaux et de faire la lumière sur ce projet monstrueux.
Si l'expulsion de la forêt fut éclair, au vu du rapport de force démesuré, tout ne s'est pas déroulé de la manière aussi lisse et implacable que ce que l'opération de communication ministérielle a laissé percevoir.
Ça et là, des barricades furent érigées, des affrontements sporadiques éclatèrent et la mairie de Bure y perdit quelques vitres.
En plus de l'expulsion de la forêt, la maison de la résistance à Bure s'est vue assiégée pendant une bonne partie de la journée. Les 30 personnes réfugiées au dernier étage de la maison ont été sorties de force, contrôlées et pour certaines interpellées.
Bilan de la journée, au moins 7 gardées à vue.
Difficile de lire clairement les intentions réelles du gouvernement à moyen terme. L'expulsion semble avoir été une réussite en matière de communication et de promotion politique, rassurant les honnêtes gens après les largesses accordées à Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, pour des raisons juridiques, les travaux dans le bois ne peuvent commencer avant au moins 1 mois et les recours, encore en cours, risquent de repousser cette date. Tout cela laisse donc perplexe quant à la capacité du gouvernement à empêcher toute réoccupation du bois dans les temps à venir.
D'ailleurs, dès ce matin, un certain nombre de personnes ont réinvesti le bois, occupant les quelques cabanes encore intactes situées en haut des arbres. Et il semblerait que la circulation dans le bois soit encore possible.
Pour mémoire, le Bois-le-Juc a déjà été expulsé. C'était en juin 2016. Quelques semaines plus tard, une manifestation de plusieurs centaines de personnes réoccupait la forêt, et ce malgré le déploiement policier.
Les 3 et 4 mars prochains ont lieu les rencontres intercomités à Bure. Tout le monde est convié à venir. Contrairement à ce que prétendent médias et politiciens, la partie est loin d'être terminée.
Et si vous voulez plus d'infos, vous pourrez écouter les 2 émissions qui ont été faites par Le Chant des Meutes, une émission de Radio Canu et qui ont été consacrées aux luttes à Bure.
Carnaval, béton va béton. Le 24 février à 14h à Saint-Étienne.
Carnaval béton va béton.
Monsieur Béton veut agrandir sa carrière.
Il veut son autoroute.
Et il veut nous aménager et nous contrôler.
Le collectif des riverains et riveraines contre la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette
et des opposants et opposantes à la 45 appellent à se rassembler lors d'une manifestation
carnavalesque. Et le soir, on enchaîne
soupe et soirée festive en perspective.
On se retrouve le 24 février à 14h à Saint-Étienne.
Rejoignez-nous.
Retrouvez toutes les infos sur stopcarrière.noblogs.org.
Carnaval, béton va béton.
Et oui, du coup, on ne peut que vous inviter à vous rendre demain à Saint-Étienne au Carnaval de l'Inutile, béton à béton. C'est contre quoi? Et bien, bien sûr, c'est contre tous les grands projets inutiles, notamment dans le coin de Saint-Étienne, contre la carrière d'Elmonico Dorel à Saint-Julien-Molin-Molette et l'A45 qui, si on a l'impression que l'A45 c'est fini, en réalité, c'est encore le ministère des Transports qui peut juger si l'autoroute A45 va être construite ou non. Donc du coup, si on a envie d'aller rejoindre le Carnaval de l'Inutile, ce sera demain à 14h à la Chambre des Commerces et de l'Industrie à Saint-Étienne, 57 cours Fauriel. Et alors, il et elle conseille de venir avec un petit char, une structure ou une maquette. Du coup, sortez tout de suite votre scie sauteuse et rendez-vous demain à 14h. Il y aura bien sûr à 16h des prises de parole et cramage de toutes les structures que vous aurez construites ce soir. Et de 17h à 22h à l'Amicale du Cré de Roche, un repas, un infokiosque et de la barbe papa, ça donne envie. Et un concert ensuite à la Gueule Noire. Et à partir de dimanche, ce sera à l'Amicale du Cré de Roche avec un brunch, un infotour des lentillères et de 19h et à 21h au cinéma Le Méliès, ce sera L'amour et la révolution de Yanis Youlounas, en sa présence, la classe.
Ah. Et on va vous lancer tout de suite, on va partir prendre des nouvelles du Kurdistan en vous diffusant des nouvelles qui ont été envoyées, qui nous ont été envoyées en début de semaine dernière et qui parlent de ce qui se passe là-bas.
Cette semaine avec des nouvelles sur l'actualité des luttes dans les différentes régions du Kurdistan. Au Rojelat, Kurdistan de l'Est en Iran.
Au Bakour, Kurdistan du Nord en Turquie.
Au Rojava, Kurdistan de l'Ouest en Syrie.
Et au Bashur, Kurdistan du Sud en Irak. Ces brèves sont faites à partir des nouvelles que nous envoient des amis kurdes directement sur place.
Diren Joshkun, membre de l'association LGBTI plus kurde Keskesor, qui est basée à Ahmet, est une femme trans actuellement en détention. Le 25 janvier dernier, elle a débuté une grève de la faim pour défendre les droits des prisonniers et prisonnières trans en prison, notamment l'accès à un suivi médical indispensable. Son arrestation et ses conditions de détention ne sont pas du tout isolées. Elles s'inscrivent dans un contexte de répression intense à l'encontre des personnes LGBTI plus en Turquie. Rappelons-nous notamment l'arrestation de Esra Arikan, femme trans violemment torturée en Turquie, et du meurtre transphobe de Hande Kader. En 2017, le gouvernement turc a suggéré d'ouvrir des prisons spécifiques pour les personnes trans, dans l'objectif de les isoler et de les réprimer plus librement. Le 2 février dernier, c'est Ali Erol, fondateur de la première association LGBTI+, de Turquie, Kaos Gael, qui a été arrêté par la police turque à son domicile à Ankara. L'armée turque a relancé des opérations militaires à Chornak et sur le mont Djoudi, qui sont deux zones situées dans le sud-est de la Turquie, près des frontières irakiennes et syriennes. En réponse, la guérilla du PKK, les HPG, les forces de défense du peuple, a mené une action contre l'armée turque à Zaho, au Bachour, donc au Kurdistan irakien, et à Djoukourdja, Hakkari et Chemdinli, au Bakour. L'écrivain kurde Mirza Kurt a été arrêté par la police turque pour avoir publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les notes de bas de page de ses ouvrages. Le coprésident du Parti démocratique des régions, donc le DBP, Mehmet Arslan, a été arrêté par la police turque à Ahmet. La commère du district de Edremit, située à Wan, donc qui s'appelle Sevir Rojbin Çetin, ainsi que le commère du DBP Abdulkerim Batmas et l'administrateur du DBP Mehmet Batu ont tous trois été condamnés par la cour de Wan à 10 ans de prison pour, je cite, « appartenance à une organisation terroriste ». Et la commère du DTK, un autre parti kurde en Turquie, Leyla Güven, a été incarcérée après 9 jours de détention pour avoir protesté contre les opérations militaires turques à Afrin, au Rojava, et pour son travail politique.
De l'autre côté de la frontière, au Rojelat, qui est donc le Kurdistan de l'Est situé en Iran, les peshmergas du PDKI ont affronté les troupes iraniennes près de la ville de Baneh. Les partis kurdes iraniens de guérilla ont décidé de s'unir dans la lutte contre les régimes iraniens. Ils ont mis en place un système de coordination dans l'objectif d'unir leurs forces. La sentence contre le militant Shahram Farhadi, arrêté le 12 novembre dernier en Iran, à Kermanshah, vient d'être annoncée à la cour de Sana. Il est condamné à 4 ans de prison pour soutien à un groupe politique kurde. Plusieurs kolbars sont morts du fait de leurs conditions de travail ces dernières semaines. Les kolbars, ce sont donc ces passeurs de marchandises qui travaillent entre la frontière iranienne et la frontière irakienne et qui subissent en ce moment des avalanches, des chutes de neige et des traversées glaciales. Et un kolbar a été assassiné à Baneh, au Rojelat, par les autorités iraniennes. Voilà pour les actualités de la semaine au Kurdistan.
Vous pouvez les écouter en direct dans les infos de Radio Galère,
Radio Canu
et Radio Zinzine.
Les relire sur le site rebellion.info.org
et les réécouter sur le blog Arte Radio aux quatre coins des Kurdistan.
À la semaine prochaine.
Et actuellement, du coup, l'offensive turque continue à Afrin avec des bombardements et des troupes au sol. Et on en entend parler dans les médias, seulement dans les médias mainstream, en fait, ce qu'on a chez nous. Seulement car certains observateurs s'inquiètent parce que des Occidentaux sont partis lutter auprès des Kurdes. Et on se demandait de quoi ils avaient peur. Alors, est-ce qu'ils ont peur de gens qui vont s'engager dans des luttes auxquelles les troupes occidentales se sont elles-mêmes engagées, ou bien est-ce qu'elles ont juste peur que le contexte de la guerre s'étende et vienne nous toucher aussi, parce que la guerre, c'est toujours quelque chose qu'on veut laisser de côté, qu'on va faire à l'extérieur et qu'on ne veut pas rapporter chez nous. Une vision bien coloniale du monde. Et pendant ce temps-là, du coup, l'armée turque continue ses massacres à Afrin. Aujourd'hui, dans un communiqué, elle annonce avoir bombardé un convoi terroriste et un convoi qui était en fait un convoi qui transportait des civils, de la nourriture et des médicaments vers Afrin. Le régime turc, donc, il continue ses attaques. Et il a et ces derniers jours, en fait, il y a le régime syrien qui a apporté son soutien aux Kurdes, ce que les médias n'ont pas manqué de souligner. Et il faut savoir en fait que ce soutien, il a des chances de tourner court, puisque en fait, historiquement, le régime syrien avait eu une politique très répressive envers les Kurdes et leur mouvement, et notamment aussi parce que ce qui se passe au Rojava, c'est une expérience démocratique radicale, autogestionnaire, féministe et écologiste, un système politique qui est représentatif des différentes communautés présentes dans le Rojava et non seulement des Kurdes, un projet démocratique qui ne plaît ni à la Turquie, ni à la Syrie, ni non plus dans sa radicalité aux gouvernements occidentaux. À Lyon, il y a un rassemblement qui est prévu du coup en soutien aux Kurdes qui se battent à Afrin et au Rojava. Et ce rassemblement aura lieu dimanche à 15h, place Jean Masset.
Et voilà, du coup c'est parti pour... c'est la fin du Canu Info du vendredi soir, mais avant on avait envie de vous dire « Allons construire des abris à bure !» Et tout de suite, eh ben, ça va être Noise Pollutions.
Et... Le Canu Info, c'est fini. Et du coup, on vous laisse avec Noise Pollution.